Sur Radio Monte-le-Son, l'ami Passion t'emmène dans un grand entretien sur 93.7.
D'accueillir ici, du coup, dans le jardin, le parc du château de Marie Cassatte. Donc, toi, est-ce que tu pourrais juste te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices et nous raconter un peu d'où te vient cette passion pour Marie Cassatte et qui était-elle ? Après, on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui, bien sûr. Eh bien, j'habite au 24 rue Marie Cassatte. Alors déjà, quand on est arrivé ici avec mon épouse, avec Françoise, ça s'appelait la rue Gournay. Et donc un jour, c'est devenu la rue Marie Cassatte. Alors c'était dans les années 85. Et alors on s'est dit, tiens, qui est Marie Cassatte ? On ne savait pas qui c'était. Et donc, on a commencé à poser des questions. Mais si, Marie Cassatte, c'est une artiste peintre impressionniste. Ah bon, moi qui croyais connaître les peintres impressionnistes, je découvre qu'il y a Marie Cassatte. Et alors, de fil en aiguille, on est arrivé à se dire, mais c'est une superbe découverte parce que c'est une grande, grande artiste. Et depuis, on a vu pas mal de ses œuvres dans les musées, les expositions. Et on dit, mais quelle chance on a d'habiter dans le village où elle a vécu, elle est enterrée. Donc tout est ici, pratiquement, elle a vécu 30 ans, quoi, 32 ans, de 1894 à 1926. C'est fabuleux.
Et alors, qui était Marie Cassatte ?
Alors, qui était Marie Cassatte ? Alors, c'est une Américaine qui est née à Allegheny, qui est un quartier aujourd'hui de Pittsburgh, et qui donc appartenait à une famille bourgeoise assez aisée. Elle n'était pas milliardaire, mais aisée, disons, très aisée, puisque son père aimait voyager. Sa mère était francophile, avait appris le français là-bas à Pittsburgh. Elle est même rencontrée dans une soirée à Lafayette quand il faisait son tour d'honneur. Bon. Donc, c'est une famille très aisée. Et il venait souvent en France. Elle avait un frère aîné qui était assez malade et allait faire des cures à Darmstadt, en Allemagne. D'ailleurs, c'est là où il est décédé. Et donc, du coup, elle a toujours eu le souvenir d'avoir visité la France, l'Europe. Ils allaient en Italie. C'était des gens. Sa mère était assez cultivée, très cultivée. Et du coup, étant adolescente, elle décide de devenir artiste peintre. Alors, son père n'était pas d'accord. Mais elle a déjà manifesté un caractère très indépendant, puisqu'elle a dit « je serai peintre ». Et donc, elle a fini, bon, je raccourcis un peu, elle a fini par donc suivre des cours à Philadelphie, puisque de Pittsburgh, les parents sont partis quand elle avait 5-6 ans à Philadelphie. Et là, elle a suivi des cours dans une académie où elle suivait des cours, mais alors des cours classiques où il n'y avait pas de modèle vivant, encore moins nu. Donc, on apprenait aux jeunes filles à savoir dessiner, faire de l'aquarelle pour être cultivée auprès de son mari, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que ça sache coudre, enfin, s'occuper des enfants. Et puis voilà, c'était pour ses loisirs, mais pas question d'en faire des artistes. Voilà, donc c'était dans cet état d'esprit. Donc elle a eu horreur de ça. Elle s'est dit, c'est pas ça que je cherche. Et donc, ayant souvenir de Paris et puis de ce qu'elle avait vu à Parme et puis à Rome, elle s'est dit, il faut que j'aille à Paris. Donc elle a profité d'une occasion pour retourner à Parme et ensuite à Paris. Et là, elle a suivi des cours auprès de professeurs français. Et là, donc, elle a croisé donc des peintres qui vont ensuite devenir impressionnistes, donc les Monet, Renoir, etc. En particulier, elle avait un professeur, Thomas Couture, dont il y a une belle toile au Mudo, ici à Beauvais. Bon, et voilà. Donc, qui est Marie Cassatte ? Ben voilà, Marie Cassatte, c'est une jeune fille américaine qui est venue apprendre la peinture à Paris et puis qui a été invitée par Degas, qu'elle a fini par rencontrer, et donc qui l'a invitée à exposer c'était la troisième exposition impressionniste. Et là, elle a dit, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, la vraie peinture, c'est la peinture impressionniste. Donc elle s'est lancée avec le groupe impressionniste, elle est devenue la deuxième femme impressionniste, parce que la première, c'est Berthe Morisot qui était là lors de la première exposition. Et donc, voilà, elle a suivi le groupe impressionniste, elle est devenue une grande, grande amie de Degas. Et comme ils ont détruit chacun la correspondance, on ne sait pas jusqu'où ça pouvait aller. Mais grande, grande amie. Et avec des hauts et des bas, parce que tous les deux avaient un caractère tyrannique, on va dire. Lui, il était très machiste. Et elle ne se laissait pas faire. Du coup, ça flashait. Il y a eu beaucoup de... Mais ils s'admiraient tous les deux. Et elle n'a jamais été son élève. Donc elle avait horreur de lire dans les articles « Marie Cassatt, américaine, élève de gars ». Alors là, elle faisait des bonds énormes. Elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que ça encore, ces bêtises ?» Non, non. Même si de gars pouvait, sur un des tableaux, il l'a conseillé juste pour lui donner un petit conseil. Mais c'était entre tous les peintres, finalement, s'entraidaient. Hein, on sait bien qu'ils se copient même entre eux. Alors bon. Bon, voilà en gros une petite présentation de Marie Cassatt avant qu'elle arrive au château.
Et donc, comment est-ce qu'elle est arrivée donc, ici? On est donc là au Ménil, Terribus, qui est donc pas très loin de là où se trouve l'antenne de la radio.
Oui.
Hein, voilà. Et comment est-ce que donc Marie Cassatt est venue vivre ici? Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé dans les murs de ce château?
Alors, il faut remonter à 1991. Là, elle a loué le château de Bachivillers, qui est juste à côté, pendant 3 ans. Elle louait plusieurs mois. Et en 92, elle y est restée plusieurs mois parce qu'elle a une commande pour un mural. C'est-à-dire une peinture murale, mais immense. Bon, je crois que ça faisait 15 mètres de long et 5-6 mètres de haut. Bon, peut-être un petit peu moins, mais... Enfin, immense, et qui devait être posée dans le pavillon de la femme de l'exposition, on va dire, coloniale de Chicago en 1893. Donc, elle et une autre américaine, Mary Fairchild McManus, étaient invitées à peindre. Elle a eu le tableau avec le thème « La femme moderne » et sa collègue américaine, c'était « La femme antique ». Donc, le thème, c'était « La femme moderne ». Donc elle avait déjà des idées très arrêtées sur le rôle de la femme dans la société, hein, avant d'être plus tard une féministe favorable au vote des femmes. Enfin bon, elle avait des idées donc qu'elle a pu exprimer sur cette immense toile. Et donc elle a fait cette toile dans le château Bachivillers. En 93, elle apprend que le propriétaire vient de se marier et sa jeune épouse souhaite habiter dans le château. Alors là, elle se sent chassée du château carrément, parce qu'elle considérait que c'était devenu son château et elle ne pouvait plus relouer. Mais elle s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, elle veut habiter son château, moi je vais avoir le mien. Et alors du coup, elle s'est décidée à chercher un château. C'est ce qu'elle écrit un an après, en 95. Mais en réalité, ça faisait déjà quelque temps qu'elle voulait s'établir ici, parce qu'elle a écrit à Pissarro, « Je vous envie d'habiter à Éragny-sur-Èbre, dans la campagne, parce que moi, j'en ai marre d'aller l'été, c'était soit à Marly, soit c'était Vétheuil, soit Dieppe, j'en ai marre, et puis de rentrer sur Paris, j'en ai ras-le-bol, je voudrais bien, comme toi, m'installer ici. » Donc, elle a déjà ça en tête. Mais enfin... Elle, ça ne l'a pas empêché d'égratigner son propriétaire, son ancien propriétaire. Et voilà. Alors du coup, elle dit, ils me font un château. Alors elle apprend que ce château qui appartenait aux descendants de Marquis de Grasse, à ses deux enfants, est en vente. Et du coup, elle a acheté le château. Donc dès la fin 1893, il y a eu des négociations. Elle était intime, elle n'était même pas là pour signer le contrat. Elle a tout dirigé de loin, et puis elle a eu le château pour 39 000 francs, payé en grande partie par la vente, enfin par le prix de la toile qu'elle a faite pour Chicago, et puis bon, elle avait des réserves avec l'héritage de son père qui était décédé. Et voilà, elle arrive ici, au château Terribus. Voilà comment elle est arrivée ici.
Et est-ce que tu peux nous décrire un peu le château que tu vois là, que tu as devant les yeux?
Alors, le château est un très beau petit château, mais c'est un vrai château au sens de la définition de la Fondation du patrimoine, parce qu'il n'est pas traversant, et il a 2 étages. Donc, c'est la vraie définition du château. Sinon, ça aurait été un manoir. Donc, c'est un château qui remonte à l'époque de Louis XIII. Début Louis XIII, il appartenait à la famille de Mornay, qui possédait plusieurs châteaux, Fresnaux, Villarceau. Bon. Et donc, du coup, ce château-là a été ensuite agrandi. C'était sûrement un lieu de chasse au début. Ça a été agrandi. Et donc, sous Louis XIII, et ensuite sous Louis XIV, Louis XV. Donc, il est en briques rouges avec du parement en pierre blanche. Et d'autre côté, tout à l'heure, j'ai observé qu'il y avait même des losanges noirs, enfin des briques noires qui forment un losange juste au-dessus, enfin sur la façade derrière laquelle se trouve la cuisine. Je trouvais ça très joli d'ailleurs.
Tu veux nous montrer ?
Oui, alors j'ai même fait des photos parce que je trouvais ça. Je ne l'avais pas bien observé avant, mais du coup j'ai fait attention. Et donc c'est un très joli petit château avec ses deux tours latérales surmontées de deux petits clochers ouverts. Voilà, on peut voir là-bas, côté cuisine, jusqu'au premier étage, il y a un décor en briques noires qui forme une suite de losanges. C'est curieux. Et tout le reste est en briques rouges avec par moments de pierre blanche. Colonne de pierre blanche, plus le fronton triangulaire au-dessus, en plein milieu.
On fait le tour par là ? Il y a des gens là-bas ? Ok.
Oui, mais non.
Peut-être on va jusqu'au moulin.
Oui, non, moi je crois que oui, ce serait pas mal. Voilà, et donc, elle a acheté le château avec 8 hectares de bois. 8 hectares de bois. Et donc, elle a fait planter des arbres remarquables qui sont toujours là, d'ailleurs. Et donc, elle avait la chance d'avoir le ruisseau qui est passé dans le parc avec un ancien moulin qu'elle a fait équiper d'une génératrice électrique. Donc, tout de suite, elle a eu l'électricité. C'est ce qui était nouveau pour le village. Et puis là, elle est partie dans les travaux pour amener le château au confort, au standard américain. Oui, parce qu'elle a toujours habité dans des belles maisons, dans des beaux hôtels, de beaux appartements à Paris. Donc, arrivée ici, la maison, depuis les années 1870, les De Grasse l'avaient pratiquement abandonnée. Donc, elle était dans un état plutôt arriéré. Enfin, donc, elle avait beaucoup de travaux à faire. Et donc là, elle a fait son expérience avec les ouvriers qui ne comprenaient pas trop bien ce qu'elle voulait faire. Et donc elle se fâchait, elle était un peu excédée de voir qu'elle disait ce qu'il fallait faire, mais les ouvriers ne faisaient pas suivant ses recommandations. Et là, elle est obligée de les chasser. Et puis après de leur dire, bon, maintenant vous allez faire ce que je vous dis. Oui, ok, alors revenez. Donc elle était comme ça. Et puis bon, mais enfin, elle a passé plusieurs mois à gérer les travaux, ce qui l'excédait parce que pendant ce temps-là, elle ne peignait pas. Et elle, sa raison de vivre, c'était peindre. Donc, elle a même pensé vendre le château, bon, elle est arrivée en avril, le vendre durant l'été. Bon, finalement, elle est restée. Donc, elle est restée, sa maman était là, et donc, elle est restée là pendant 32 ans.
Il y a une petite histoire avec ce moulin, non ?
La petite histoire. Alors oui, ben, l'histoire, c'est que donc, ce moulin est devenu donc, une source d'énergie électrique. Et puis, comme elle faisait de la gravure, mais s'est dit, ben, je vais occuper l'espace du moulin, puisqu'il n'y avait pas... c'était plus un vrai moulin. Elle en a fait son atelier de gravure. Donc, elle a fait amener ici tout son stock de papier de Paris, une petite presse. Et là, elle a continué à faire ses gravures. Voilà, on est devant le moulin. C'est un petit moulin avec une porte, deux fenêtres, volet blanc, porte blanche, et qui se font bien dans le parc tout vert. Donc ce petit bâtiment rouge ressort très bien. On peut faire de belles photos.
Il y a encore la roue ?
Non, alors non, ça a disparu depuis sûrement très 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 longtemps. Et il n'y a plus que le passage de l'eau qui est à sec, et bon, le ruisseau passe là en dessous. Non, elle avait fait installer un petit générateur électrique, donc il n'y a plus de raison qu'il y ait de roues. C'était un petit générateur électrique à l'époque, on en faisait déjà. Et donc comme ça, elle a eu son courant électrique pour éclairer donc son château.
Vous êtes bien avec l'Ami Passion sur Radio Monte-le-Son en direct de la Maison Avron, 93.7.
Et comment est-ce qu'elle a été perçue dans le village, Marie Cassatte ?
Alors là, il y a eu d'abord une grande surprise, parce que c'est une femme, on va dire, autoritaire, une grande prestance, on le voit sur la photo qui est à l'entrée de l'école. Elle était impressionnante et un peu hautaine, par contre elle avait un grand cœur. Donc, avant d'arriver au grand cœur, il fallait d'abord... passer par l'étape donc physionomie un peu effrayante. Et elle était donc très autoritaire, et il fallait qu'on fasse suivant ses desiderata. Donc sinon, ça ne se passait pas bien. Très exigeante. Alors, donc, elle a été appelée l'impératrice par les gens du village. Et puis ensuite, c'est devenu notre demoiselle. Son personnel l'appelait notre demoiselle avec un grand respect parce que, elle, à partir du moment où les gens, je dirais, suivaient ses ordres ou respectaient donc, donc tout ce qu'elle souhaitait faire ou avoir, tout se passait bien. Et puis, officiellement, c'était Miss Cassat, c'est-à-dire les rapports qu'elle avait avec la municipalité parce qu'il y a eu, des demandes pour faire un certain nombre de petits travaux. Donc la mairie, dans les délibérations, l'appelait Miss Cassat, nous demande que Miss Cassat propose ceci, propose cela. Donc c'était, alors, au début une impératrice, puis notre demoiselle et Miss Cassat. Ce qui fait que, il a fallu quelques années pour que le village se rende compte que c'était une dame d'abord très respectable, parce que c'est une grande artiste. Alors c'est un village ici, où 90% des gens étaient boutonniers, qui travaillaient pour faire des boutons, soit dans l'usine de boutons en bas, chez le maire Vallée, soit à domicile pour aller encarter les boutons sur des petits cartons. Et donc, bon, qui était cet artiste? Déjà, métier artiste. Alors, une femme indépendante seule, c'est déjà inhabituel. En plus, artiste peintre, oh là là, ça faisait un mélange un peu explosif. Mais elle a su se faire respecter parce qu'avec elle, il n'était pas question de faiblir. Elle, c'était ça où elle partait. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, le village, finalement, l'a beaucoup apprécié parce que en 1905, elle a proposé de payer le salaire de l'institutrice de l'école enfantine. Il était question de réouvrir une école enfantine, c'est-à-dire avant 6 ans. Eh bien, donc, ça arrangeait bien les parents qui allaient travailler à l'usine de boutons, et du coup, elle a proposé donc de payer l'institutrice. Et elle l'a fait pendant 8 ans. C'était 1000 francs par mois. Il fallait quand même les sortir. Donc, on voit qu'elle a fait beaucoup pour le village. C'est quand même exceptionnel. Il y a peu d'exemples comme ça de personnes, je dirais, aisées, qui ont contribué au bien-être du village. Et puis quand il y a eu la grève des boutons en 1910, elle était pour les ouvriers, les ouvrières. Elle avait de temps en temps des idées, on va dire, socialisantes. Hein. Bien que vivant comme une bourgeoise, elle était un peu pour des idées un peu moins brutales comme à l'époque. Et ce qui fait que, bien souvent, elle a sorti des jeunes filles de l'usine pour les faire travailler ici comme cuisinière ou comme femme de chambre, voilà, comme femme de chambre en particulier. Et puis elle avait des modèles du village ou du village des alentours. Parce qu'il faut savoir que tous les jours elle sortait, soit en calèche avant 1906. À partir de 1906, elle a eu une Renault Landau qui était une des premières voitures, et ce qui fait que son chauffeur lui faisait faire un petit tour, le tour du village, les alentours, et dès qu'elle voyait un joli petit visage ou une dame qui était de son goût, en tant que peintre, elle s'arrêtait et elle demandait si la personne, enfant ou les parents, pouvaient souhaiter venir servir comme modèle. C'est comme ça qu'il y a à peu près une trentaine de modèles qui ont travaillé pour elle. Alors certains ont été modèles pendant très longtemps, de nombreuses années. La plus célèbre est Reine de Fèvre. Et Reine de Fèvre, donc, a servi comme modèle. Elle avait autour de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Marie Cassat l'a aidée ensuite à la placer dans une maison d'un riche banquier. Elle a là épousé c'était le majordome, qui est venu s'installer au Ménil, qui est devenu maire du village dans les années 40, enfin 30, 40, 45, enfin l'après-guerre. Et c'est la rue Ernest Pinault qui garde son nom. C'était le mari de Reine de Fèvre. Donc, voilà, donc elle a beaucoup fait pour le village parce que Du coup, les modèles étaient payés, donc ça permettait aux gens de gagner un peu d'argent. Et voilà, donc voilà comment, voilà quel genre de contact pouvait y avoir entre la population et elle.
Et alors là, on entend derrière nous des gens qui entretiennent le parc, parce que maintenant, qu'est devenu ce château, ce parc, etc. Comment est-ce qu'il est, il vit aujourd'hui?
Alors, en 1926, Marie-Cassa décède, et c'est sa nièce préférée, on va dire, Hélène Marie Cassat. Elle s'appelait Marie comme elle, donc elle aimait déjà, puisque une autre nièce. Et Hélène Marie Cassat hérite du château. Et Hélène Marie Cassat, donc, avec son mari, l'a habité jusqu'en 1936. On a à peu près des traces jusqu'en 1936. Après 36-39, avec l'arrivée de la guerre 40, bon, ils ne sont plus restés là. Et donc, en 1961, eh bien, donc, Hélène Marie Cassat décide de se séparer du château et de le léguer à une institution qui dont pourrait occuper le château et s'occuper d'œuvres concernant les enfants. C'était dans le testament, dans les conditions du contrat. Ce qui fait qu'elle a donc légué le château au Moulin Vert, qui remplissait les conditions, et il avait aussi comme condition d'entretenir la tombe, dans laquelle il y a son frère qu'elle a ramené d'Allemagne, sa sœur Lydia, qu'on voit dans beaucoup de tableaux magnifiques, qui était décédée à Paris, ramenée de Marly ici, et son père qu'elle a ramené de Marly ici, et sa mère qui est décédée un an en 1895, est décédée ici, à Ménie. Donc elle s'est dit, là, ben, je vais donc demander une sépulture perpétuelle à la mairie, on a les traces de ça, et elle installe toute sa famille là, sachant qu'elle, un jour, elle ira là. Donc elle a déjà décidé que toute la famille Cassat serait enterrée ici au Ménil. Ce qui fait que là, on a donc cinq Américains, dont un maire de Allegheny, parce que son père a été maire de Allegheny, qui est aujourd'hui un quartier rattaché à Pittsburgh. Mais c'est une petite ville, juste en bordure de Pittsburgh, qui était maire de Allegheny. Donc c'est quand même pas rien.
Et alors du coup, le Moulin Vert, les gens qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément ce que c'est et pourquoi est-ce qu'ils remplissent les conditions de s'occuper des enfants, ou en tout cas cette volonté, voilà, qu'elle avait là.
Alors en 1965, officiellement, le château passe entre les mains du Moulin Vert. Et le Moulin Vert, ben, c'est une institution qui a une cinquantaine de sites en France, avec des EHPAD. Donc ici, dans les années 85, quand on est arrivé, c'était de jeunes enfants. Et qui allaient d'ailleurs à l'école primaire. Ils avaient de l'âge de l'école primaire, donc mes enfants ont côtoyé les enfants du Moulin Vert à l'école primaire. Et puis ensuite, un peu plus tard, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus d'enfants d'âge de l'école primaire, mais plutôt des adolescents, en ouvrant une école d'horticulture. Donc aujourd'hui, c'est toujours une école d'horticulture pour des jeunes adolescents.
Et il se trouve qu'il y a en plus une maraîchère qui est installée ici et qui cultive les légumes du parc.
Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que grâce aux initiatives prises par Anne-Marie Vazer, il y a une émulation concernant tout ce qui est culture naturelle, bio, maraîchère. Et ce qui fait que... Ben, je pense que c'est par Anne-Marie qu'elle a dû apprendre
Karen.
Karen, voilà, c'est Karen. Voilà, donc Karen, qui cherchait sûrement à s'établir, je pense que c'est par l'intermédiaire d'Anne-Marie. Elle a donc demandé au Moulin Vert ce qu'elle pouvait faire. Le Moulin Vert lui a effectivement permis d'occuper, d'ailleurs, l'ancien jardin, l'ancien potager, qui est de l'autre côté de la route, de la mare, là-bas, enfin, le grand étang. De l'autre côté, il y a donc le potager de Maricassa qui est aujourd'hui cultivé par Karen. Et voilà, donc du coup, Karen Dès que c'est la saison, ben, tous les... elle vend ses légumes à Val-d'Empierre et puis on peut lui passer des commandes de paniers garnis pour le vendredi.
Une autre femme indépendante finalement.
Une autre femme, oui. Ouais, voilà, parce qu'il faut être courageuse. Donc voilà, c'est une émule de Marie Cassatte. de Marie Cassatte qui a effectivement aussi bien de Marie et qui est très très courageuse, qui a lancé beaucoup de projets dans le village, dans le jardin des partages. Elle a fait également les moutons, les brebis chez Noël avec le fromage, la fromagerie qui va s'installer. Tout ça, ça vient d'elle. Oui, c'est des femmes indépendantes. C'est un village de femmes indépendantes. Voilà, il y avait de quoi permettre aux femmes indépendantes de s'épanouir.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
avez vu, je vous avais parlé du film Le portrait de la jeune fille en feu. Est-ce que vous avez fini par le voir, ce film ?
Non.
Sur aussi une peintre indépendante qui accueille une personne chez elle et qui la peint et tout ça. Non, vous l'avez pas vu.
Non, je n'ai pas vu ce film, non. Non, mais j'imagine que c'est un peu dans le même état d'esprit. Non, je n'ai pas vu ce film. Bon, il faudra que je le voie, je vais noter.
Et Lucien, il t'avait conseillé ce film pour une raison particulière, qui est qu'il y a quand même des hypothèses sur une potentielle homosexualité qu'aurait vécu Marie Cassatt avec une autre femme,
oui.
Dont il existe des traces de correspondance, ou en tout cas des traces d'amour qui sont...
Alors c'est ça le film, alors. Voilà, donc il va falloir que je le voie, parce que... Bon, je m'intéresse un petit peu plus près à Marie Cassatt en lisant une sélection de lettres et puis pas mal de livres écrits sur Marie Cassatt, sur sa vie. Et il n'y a aucune trace écrite sur les relations qu'il pouvait y avoir entre Marie Cassatt et Mathilde Vallée, qui était sa gouvernante, sa camériste, sa... Voilà, c'est ça. Donc, et effectivement, elles étaient inséparables. Donc, elle l'a menée partout, même aux États-Unis quand elle est retournée, ou en Égypte, au voyage avec la famille de son frère Gardner. Alors, dans le village, il pouvait se dire beaucoup de choses. Il n'y a pas d'écrit qui peut le certifier. Ceci dit, elle avait des amis. Oui, des correspondants, des amis qui venaient les visiter, qui étaient effectivement à tendance homosexuelle. Mais ça rentrait dans le jeu de l'indépendance. Je veux dire que, voilà, pourquoi pas, après tout, elle fait ce qu'elle veut, elle vit sa vie. Voilà. Mais il n'y a pas de traces écrites. Il n'y a pas de traces écrites.
Voilà. Et est-ce que c'est possible qu'on en retrouve un jour ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui cherchent des traces écrites de Marie Cassatt et qui pourraient...
Oui, alors, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet ? Je ne sais pas. Probablement, oui. Alors, il y a des pièces de théâtre qui... je crois qu'elle est terminée, qui est écrite par une Américaine, Arden Lewis, qui est venue visiter le château il y a 2 ans et qui peut-être parle du sujet. Parce que c'était des relations, justement, entre Marie Cassatt et Mathilde Vallée. Donc là... Les Américains sont plus libres, peut-être, pour parler de ce sujet. Alors, Arden Lewis nous a dit que, il y a déjà, à cause du Covid, tout a été repoussé. Donc, je pense que sa pièce est terminée. Je vais la recontacter pour voir si sa pièce est terminée. Et puis, il y a en France aussi notre pièce de théâtre qui va se monter, mais pas sur ce thème-là. Voilà. Ceci dit, elles étaient inséparables. Quand, en 1914, Mathilde Vallée a dû s'exiler parce qu'elle était d'origine allemande. Avec sa sœur, ils ont dû s'exiler en Suisse. Et là, Marie Cassatt était assez triste de cette séparation. Alors, elle l'a fait venir en Italie, puisqu'elle-même, elle a passé une bonne partie de la guerre dans sa villa d'été, donc à Angeletto, à Grasse. Pendant la guerre, elle ne pouvait pas rester ici, le front était à 70 km. Et là, elle a écrit en disant, oui, je suis seul, me sens seul. Enfin, elle a écrit ça à son amie américaine Louisiana Weymeyer. Mais elle avait donc fait installer Mathilde Vallée côté italien. Donc elle allait la voir. Elle écrit même « Je vais aller la voir. On va aller ensemble à Florence. » Donc elle ne pouvait pas trop se passer de Mathilde Vallée. Elle lui a envoyé de l'argent pour vivre. Donc c'était pas une femme de chambre quelconque, banale, quoi.
Une bonne amie.
C'est une bonne amie. Alors maintenant, chacun peut fantasmer sur le sujet. Mais moi, je ne trouve rien à redire. C'était sa vie. Elle était libre. En tout cas, elle nous a produit de belles peintures, qui nous restent, de belles gravures. Et il faut dire que le Minitiribus et ses alentours est un cas unique dans le monde entier. Parce qu'il y a peu de villages comme le nôtre et ses alentours qui ont une trentaine de personnes... bébés, enfants ou mères, jeunes filles, qui sont vues tous les jours dans les plus grands musées du monde. Parce que Marie Cassatt s'attachait à ces modèles. Donc on voit le même modèle sur plusieurs de ses toiles, des toiles qui sont admirées aujourd'hui, très peu en France, parce que évidemment à l'époque, l'impressionnisme ne se vendait pas, et beaucoup, 90% aux États-Unis, mais aussi bien le musée les musées donc, en Angleterre, à Leningrad, Moscou, enfin essentiellement aux États-Unis. Vous allez au Met de New York, vous allez au National Gallery, au Philadelphie, qui est un très beau musée. Vous voyez des toiles de Marie Cassatt, on va rester des heures à regarder. Et ce sont des gens du Ménil, ou de Bachivillier, ou de Fresneau, dont on connaît le nom pour certains. Il est très difficile de retrouver des traces. Margot Lux, voilà, si vous connaissez la famille Lux, ça m'intéresse d'avoir dans les coordonnées, parce que je recherche effectivement à savoir qui étaient ces modèles. Alors, Reine Lefebvre, tout le monde le connaît, on connaît ses descendants, qui ont donc Yvette Boudry, qui a vécu dans le village ici, donc ses petites filles. Et donc il y avait Sarah, elle avait peint énormément Sarah, Margot, donc Louise, une Louise de Fresneau, Fissier, elle s'appelait Fissier, il y a des Fissiers là-bas encore à Fresneau. Et donc voilà, donc elle avait des modèles qu'elle prenait ici parce qu'elle ne voulait pas de modèle professionnel. Parce que le modèle professionnel, il prend la pose. Et elle ne voulait pas qu'on prenne la pose. C'était la pose des gens simples, naturels. Par contre, elle les habillait un peu de façon extravagante, parce qu'elle s'habillait chez les plus grands couturiers de Paris, des grands chapeaux, elle aimait beaucoup les chapeaux, et elle apportait de Paris des costumes pour les enfants et pour les mères, et elle les habillait de façon somptueuse. Du coup, les modèles se voyaient habillés très élégamment, comme on peut le voir sur les tableaux. C'était pas la recherche d'un réalisme paysan de montrer la misère du peuple. C'était pas ça, non. Elle, c'était une vision plus intimiste. C'était effectivement le regard de l'enfant et de la mère, mais dans des atours qu'elle avait choisis.
S'il y avait un tableau, quel est ton tableau préféré de Marie Cassatt?
Eh bien, il y en a un justement qui a été peint sur l'étang, qui s'appelle, le titre exact, je ne sais plus, mais enfin, qui s'appelle donc « Une femme et deux enfants sur l'étang ». On voit la barque, je l'ai en poster chez moi, dans mon couloir, je le vois tous les jours. C'est un tableau magnifique, d'une part parce que c'est une très belle toile et qui représente justement le Ménil, c'est l'étang. Hein. Elle n'était pas du tout paysagiste, donc on voit très peu le parc. On peut deviner que c'est le parc, mais celui-là, c'est vraiment l'étang. Hein. C'est vraiment l'étang et... avec donc une maman et ses deux enfants, et des canards devant. Donc elle l'a fait plusieurs fois, elle a fait des gravures, des gravures aquatintes avec des canards tout autour. Et ça, c'est l'étang. J'aime bien cette toile. Et une autre qui a été peinte, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est difficile de choisir une qui a été peinte à l'intérieur de la véranda, parce qu'à son époque, son atelier, c'est le bureau actuel du directeur. Et la véranda actuelle, c'était son salon de thé, où elle avait accroché, elle avait une centaine de gravures japonaises, des simples japonaises. Et donc, elle avait ces simples japonaises, elle prenait le thé. Et là, contre la verrière, en ayant le parc dans le dos du modèle, elle a peint une jeune femme qui était Reine Lefebvre, en train de coudre, et une jeune fille qui s'appuie le coude sur les genoux de sa maman. Celle-là, je l'ai vue, je l'ai vue de vrai, au Metropolitan Museum de New York. Je suis resté admiratif parce qu'elle est d'une fraîcheur, des couleurs éclatantes. Et on voit un tableau paisible, un maman qui coud, la jeune fille qui est pensive. Voilà, c'est ça qu'elle recherchait. Elle ne recherchait pas autre chose que ça. C'est cette intimité-là. Bon, elle n'a pas eu d'enfant. Donc elle recréait un cadre intimiste dans lequel elle devait aussi prendre un grand plaisir. Et nous, on a ce plaisir de voir ça. Et c'était une peinture de style. Elle n'a pas toujours été impressionniste. Hein. Tous les impressionnistes n'ont été impressionnistes qu'un temps. Renoir, on voit à la fin, il n'était pas du tout. Et elle, après, ses gravures ne sont pas du tout impressionnistes. C'est surtout de la peinture. Mais ses tableaux ont une connotation impressionniste forte malgré tout. Voilà.
Tu nous avais ramené des petites choses dans ta pochette ?
Oh ben non, mais ça c'était juste pour vous, pour vous illustrer quelques trucs, parce que j'ai un petit book sur Marie Cassatt, mais bon, ça n'a pas d'intérêt, il vaut mieux parler de mémoire, des choses qui marquent. Non, c'est mon petit book que j'avais fait, parce que quand on reçoit les gens ici, j'aime bien montrer des images, on ne peut pas tout voir, donc je leur montre des images sur des images de l'époque, du château de l'époque, Et elle a reçu beaucoup de monde ici. Elle a reçu énormément de gens importants. Bah, Clémenceau est passé. Donc, bien sûr, ces marchands d'art, Durand, Ruel et Vollard, des personnages qui sont moins connus, mais qui étaient ses amis peintres américains. Degas n'est jamais venu.
Je crois qu'il ne s'aimait pas trop, hein, finalement.
Si. Non, je conteste la chose. Non, il y a eu une époque où elle a été fâchée avec lui parce que lui était anti-Dreyfusard et elle était, bien sûr, pour Dreyfus. Et lui, il était machiste et antisémite. Donc, du coup, elle ne l'a pas du tout accepté. Et là, elle a rompu avec lui. Mais le temps ayant passé, à la fin, elle s'est rendue compte que Edgar Degas vieillissait mal, comme tout le monde, et elle a pris soin de lui. Elle a conseillé à ses nièces de venir s'en occuper pendant la guerre, donc d'aller le voir, etc. Il est mort en 1917 et elle est venue à son enterrement. Et donc, elle gardait pour lui une grande admiration en tant que peintre. Et elle savait qu'il était un personnage assez horrible, on va dire, parce qu'il était cru. Hein, qui disait, je n'admets pas qu'une femme sache aussi bien peindre en voyant ces tableaux. Mais c'était un compliment. Elle savait que c'était un compliment, mais quand on entend ça, on se dit, donc c'était du Degas tout pur. Il était comme ça, mais c'est un grand, grand peintre. Elle admirait le peintre et la relation qu'ils avaient de respect mutuel. C'est-à-dire, lui, il la respectait en tant qu'artiste peintre et elle le respectait de façon réciproque. Voilà.
Merci. C'est super. Merci beaucoup.
Respirez. Vous êtes avec l'ami Passion, le grand entretien de Radio Monte-le-Son 93.7.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes. Celle qui me ferait frissonnante parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Mulie. Dehors et en chantant avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonhomme et en psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette, Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judigar, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, aux lames de bouge, aux alas rouges, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Portia Lupès. Enfin j'ai, pour être sincère, du goût pour les belles arrangères, Yvette Gilbert, Claire Bredecher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka, Malika ou Marilyn. Et si votre astral cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en gourgandine. Tiens, en Juliette nous rédine.